7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 17 mai. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, Elisabeth Borne, nommée première ministre hier, deuxième femme chargée de mener la politique de la nation sous la 5e République dans une classe politique toujours très masculine. Reportage en Occitanie. Nous verrons aussi que les ONG l'attendent sur l'écologie et deux invités pour en parler dans le grand entretien. Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Christophe Castaner, et puis le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Les autres titres, Anaïs.
Elle a quitté son pays avec un scénario digne d'un film d'espionnage déguisé en livreuse de repas, témoignage dans ce journal de la dissidente russe des Pussy Riots. Permettre aux aidants de souffler un peu, bilan tiré aujourd'hui de l'expérience de baluchonnage, on vous explique. Et puis, premiers échanges de balles sur la terre battue de Roland-Garros, les matchs de qualification ont débuté.
Et le 75e Festival de Cannes est lui aussi à la une de ce 7-9, avec un journal quotidien du festival à 7h23 et avec vos invités Léa.
Et le roi et la reine de Cannes cette année seront avec nous dans cette matinale. On sera à 7h50 avec le président du jury du festival cette année, l'excellent Vincent Lindon. Ses derniers mots avant qu'il ne soit tenu au silence pendant 10 jours, comme le veut la coutume. Et puis à 8h50, autre invité exceptionnel, Virginie Efira, qui présentera ce soir la cérémonie d'ouverture sur France 2.
A tout à l'heure, Léa.
France Inter. Elle rejoint le cercle plutôt fermé des dirigeantes européennes comme Ursula von der Leyen, comme la première ministre danoise ou finlandaise. 30 ans après Edith Cresson, le gouvernement français, à nouveau dirigé par une femme politique, Elisabeth Borne, première ministre nommée hier par Emmanuel Macron. Bref, prise de parole au moment de la passation de pouvoir hier soir avec Jean Castex.
Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
À 61 ans, Elisabeth Borne brise donc 3 décennies de passation de pouvoir exclusivement masculine et ambitionne de déjouer le machisme de la classe politique. Réaction d'élus ES de terrain en Occitanie, Hugo Charpentier.
Elle n'est pas du même bord politique qu'Elisabeth Borne et pourtant elle lui souhaite
du courage, de l'abnégation et de la détermination.
Nadia Bakiri, conseillère régionale d'Occitanie qui a le sourire car elle en est persuadée. Cette fois-ci, ça se passera mieux qu'il y a 30 ans.
Edith Cresson, on a souffert quand elle était première ministre. Avec le temps, les mentalités évoluent et les comportements changent. Je suis persuadée qu'elle aura le soutien de beaucoup de femmes.
C'est aussi ce que pense Claudie Faucon-Méjean, la maire socialiste de Brame, dans l'Aude.
Le symbole est important, c'est un signe progressiste, bien entendu, pour les femmes, pour la place des femmes en politique aussi.
Car aujourd'hui encore, c'est loin d'être tous les jours facile.
Le plus dur, c'est la légitimité. Prouver tous les jours qu'on est à notre place. Et ces femmes-là tracent notre sillon et petit à petit, on gagne notre place dans l'échelon politique.
D'autres sont plus mesurés à l'image de Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie.
Aujourd'hui, on est dans le symbole. Vous me demandez est-ce que ça va changer la vie? Je vous dis que ce que je souhaite, c'est que ça change la vie des Françaises. Donc j'espère qu'Elisabeth Borne sera cette première ministre-là. Pour autant, le seul fait qu'elle soit femme n'en fait pas, au moment où on se parle, encore quelqu'un qui aura fait progresser l'égalité femmes-hommes en France.
L'égalité femmes-hommes qui sera justement de nouveau la grande cause du quinquennat Macron.
Et l'urgence affichée, c'est aussi et surtout le climat. Première ministre chargée de la planification écologique, ça veut dire atteindre la neutralité carbone en 2050 en transformant en profondeur l'économie, les transports, l'agriculture. Elisabeth Borne a fait un bref passage au ministère de l'écologie et ce matin, les ONG lui reconnaissent, Sandy Dauphin, sa connaissance des dossiers, mais attendent des actes.
Elisabeth Borne connaît parfaitement les dossiers environnement et climat, estime le président de France Nature Environnement, la principale fédération d'associations. Arnaud Schwartz n'est pas étonné par le choix de la première ministre.
J'avais pensé à elle parce que c'est une personne qui est organisé, qui connaît son sujet. Il faut se le dire aussi, qui froid pas trop d'ombre au président de la République, qui lui a envie d'exister là-dessus aussi.
Elisabeth Borne est une femme ouverte au dialogue, reconnaît de son côté Anne Bringaud de l'ONG Réseau Action Climat, mais elle attend de juger sur pièce cette première ministre chargée de la planification écologique.
Tout dépend de la feuille de route qu'Emmanuel Macron lui a donnée, mais clairement, il faut qu'effectivement, en tant que première ministre, qu'elle mette tous les ministres sur cette voie de la transition écologique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et en même temps, accélérer la rénovation des bâtiments, le développement des renouvelables, la transformation de l'industrie automobile. Tout ça, ce sont des enjeux clés qu'elle connaît, mais maintenant, il va falloir mettre en œuvre.
Accélérer la transition écologique, le défi est d'autant plus complexe dans le contexte très particulier de guerre en Ukraine, crise de l'énergie et flambée des prix.
Autre chantier politiquement plus urgent peut-être pour celle un temps membre du Parti Socialiste, les législatives dans moins d'un mois qu'elle aborde comme patronne de la majorité présidentielle. Elle qui n'a jamais été élue se présente dans le Calvados. Côté réaction politique, le communiste Fabien Roussel, Macron a trouvé sa Madame Thatcher, la technocratie au service de l'argent roi. À droite, le numéro 3 des Républicains Aurélien Pradier lui souhaite bonne chance.
Si le profil est intéressant pour être Premier ministre, c'est d'être un chef d'administration, elle a sûrement le profil intéressant. Enfin, on nous fait poireauter depuis quelques semaines, quelques jours, en nous disant qu'on va voir ce qu'on va voir avec la nomination du Premier ministre, que ce sera un signal politique très fort. Et puis on atterrit sur une haut fonctionnaire qui va servir docilement Emmanuel Macron. Je pense que c'est un bon choix pour Emmanuel Macron, qui va avoir un Premier ministre banal. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix pour la France, mais dans tous les cas, comme je suis patriote, je souhaite bonne chance à Elisabeth Borne dans la mission qui est la sienne.
Aurélien Pradier, LR avec Anne Souhaitemont. La constitution du gouvernement est attendue dans les prochains jours avec, comme toujours, la promesse d'une équipe resserrée. L'enfance et le parcours d'Elisabeth Borne, c'est aussi à lire sur franceinter.fr.
Il est 7h07, une opération de sauvetage en cours à Mariupol, en Ukraine.
Pour sortir les derniers soldats ukrainiens réfugiés dans l'usine Azovstal, 260 hommes déjà évacués hier vers des territoires russes en attente d'une procédure d'échange. Dans le Donbass, à défaut de conquête franche sur le terrain, une pluie de bombes russes à Severodonetsk, 10 morts sous les bombardements, alors que dans le nord du pays, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle d'une partie du territoire autour de Kharkiv. Mais arrêtons-nous ce matin sur cet épisode digne des romans d'espionnage et ce témoignage, celui d'une des membres du groupe des Pussy Riot, cette dissidente du régime que Thibault Lefebvre a jointe avec Denis Kataïev, raconte son départ rocambolesque de Russie déguisée en livreuse de repas, elle qui était sous la menace d'une peine de prison.
Maria Alokhina quitte son appartement de Moscou, c'était dans la soirée du 20 au 21 avril.
Je suis partie avec un bracelet électronique, c'était le jour du procès.
Car la chanteuse des Pussy Riot s'était jusque-là assignée à résidence et surveillée de près pour avoir soutenu des manifestations anti-Poutine. Elle aurait pu être condamnée le jour même à 3 semaines de prison. Elle a alors décidé de fuir.
On a marché dans les rues la nuit, puis on s'est rendu dans l'appartement de ma petite amie qui était surveillée par la police. On s'est alors demandé ce qu'on devait faire, sortir et leur dire « on vous emmerde » ou bien se déguiser avec ce costume de livreur. Et c'est ensuite qu'a commencé ce périple d'une semaine.
8 jours pour entrer en Biélorussie, être refoulé 2 fois à la frontière lituanienne et finalement pénétrer dans l'Union européenne grâce à des papiers envoyés par un ami.
Je veux aider l'Ukraine autant que je peux. Je vais maintenant sans doute m'engager bénévolement dans un camp de réfugiés.
Pour le moment, les Pussy Riot se sont en tournée. Elles seront ce soir à Munich pour un nouveau concert de soutien à l'Ukraine.
Quand les théories d'extrême droite tuent Joe Biden sur les lieux de la tuerie de masse de Buffalo aujourd'hui, un lieu choisi par le meurtrier pour, dit-il, le plus fort taux d'habitants afro-américains de la région avec l'objectif d'en tuer le plus possible. 10 sont morts, motivation glaçante de ce meurtrier de 18 ans adepte du suprémacisme blanc. En France, un homme d'une cinquantaine d'années sympathisant d'extrême droite a été mis en examen pour meurtre. Il est soupçonné d'avoir tué par balle un jeune homme d'origine marocaine samedi à Paris avant de prendre la fuite. La question du mobile raciste est au centre de l'enquête. Les membres du groupe de rock Eagles of Death Metal, attendus à midi à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris, c'est eux qui étaient en concert au Bataclan au moment des attentats du 13 novembre 2015. On en parle à 7h30.
Il est 7h09, on l'appelle baluchonnage au Québec, Anaïs, relayage en France.
Et le concept elle-même, il est expérimenté depuis 2019, permettre à une personne qui s'occupe d'un proche malade ou handicapé de souffler un peu et prendre des vacances. Et pendant ce temps, une auxiliaire de vie prend donc le relais. Mais cela nécessite une entorse au droit du travail pour être sur le pont 24 heures sur 24. Un premier bilan du dispositif est tiré aujourd'hui lors d'un colloque organisé à Avignon. Anne Ornstein, les premiers retours sont positifs. Vous avez suivi une baluchonneuse, comme on dit, à Ambarès-et-Lagrave, près de Bordeaux.
Dans la grande cuisine, pendant que Corinne prépare le déjeuner, Sheena, ancienne professeure de musique, malade d'Alzheimer, bouge un peu la main et sourit.
Son mari m'a laissé l'ordinateur avec toutes les sélections de musique qu'elle aime. Et moi, je le lui mets le matin pour ne pas la perturber dans ses habitudes. Sheila va manger du poisson.
Depuis 6 jours, Corinne a posé son baluchon dans le salon, près du lit médicalisé de Sheila, pour prendre le relais de son mari, épuisé.
Je veux être au plus près de la personne en cas justement qu'elle ait besoin de moi. On est toujours en alerte, c'est 24 heures sur 24, la compensation elle est au niveau des repos, de manière à pouvoir s'investir complètement pendant le temps du baluchonnage.
Dans ses journées habituelles, Corinne court d'une personne à une autre.
On respire.
Là, elle prend le temps de sortir des tâches ordinaires.
Je lui ai fait des soins de visage qu'on n'a pas le temps du tout de faire quand on est auxiliaire de vie. Même si des fois on se demande si elle est réceptive à ça, moi je le sais. Elle se détend, elle est moins crispée. Et ça, c'est valorisant. Si je pouvais faire que ça, je ne ferais que des baluchons.
Encore un peu ? Reste juste à trouver des financements pérennes, ce que la loi ne prévoit pas pour l'instant.
Et pour plus de précisions, retrouvez un article complet sur le baluchonnage sur franceinter.fr. Tout à l'heure, à 10h30, le tapis rouge déroulé à Cannes pour la cérémonie d'ouverture ce soir à 19h, diffusée sur France 2 et par Brut. Le festival du cinéma débute par une parodie déjantée de films de zombies signée Michel Hazanavicius. Nouveau rendez-vous sur Inter tout à l'heure à 7h23 avec le journal du festival depuis Cannes. Enfin à Paris, encore un tout petit peu d'attente pour le festival du tennis. J-5 avant le début de Roland-Garros avec 14 Français dans le tableau final et peut-être un peu plus si certains s'imposent dans les qualifications qui ont débuté hier. Match tout aussi passionnant, Fabrice Abgral.
C'est le tournoi dans le tournoi, celui qu'il ne faut pas rater pour participer à Roland-Garros. Les joueurs engagés dans les qualifications doivent remporter 3 matchs pour gagner le droit d'intégrer le tableau final. Ils sont tous classés au-delà de la 100e place mondiale. Jessica Ponchey, 141e, et hier, elle a remporté son premier match.
C'est les plus beaux tournois du monde, on a tout envie de rester le plus longtemps possible. Il y a de l'argent évidemment aussi qu'on n'a pas du tout sur les autres tournois, surtout aux alentours de mon classement. Donc c'est vrai qu'on s'arrache toutes comme des folles pour être là, et quand on est là, eh ben, on s'arrache encore plus.
Tous les matchs des qualifications se déroulent sur les cours annexes de Roland-Garros. Et dans les gradins, un public de passionnés, comme Patrick.
Je m'intéresse plus aux jeux qu'aux stars. Donc voir la numéro 200, jouer contre la numéro 300, ça me plaît. Voilà, c'est un plaisir de venir ici et d'éviter la cohue surtout.
C'est l'occasion à chaque fois de voir évoluer des joueurs confirmés et expérimentés, mais aussi et surtout de jeunes joueurs prometteurs. C'est ce qui plaît à Enzo.
Justement, je vais au Calife pour essayer de voir des joueurs qui ne sont pas forcément connus et ça fait plaisir à voir. Et je trouve que c'est un peu leur moment de gloire et je trouve ça vraiment beau.
16 joueurs et 16 joueuses sortiront des qualifications. Pour eux, une fois dans le tableau final, c'est l'assurance de gagner au moins 62 000 euros, somme promise aux perdants du premier tour de Roland-Garros.
Et c'est déjà ça, hein, le tournoi de tennis de Roland-Garros débute le 22 mai sans Gaël Monfils, numéro 1 français, forfait.
Merci Anaïs Feugat. Le zoom dans 3 minutes aujourd'hui. Parole de 3 générations de Françaises et de Français face à l'homophobie encore.